puisque le silence s'est établi tout seul, j'en profite. Merci d'être venus si nombreux. Merci aux deux ou trois enseignants, enfin tous les enseignants d'Odé et autres lycées, qui nous ont amené beaucoup d'étudiants et d'élèves. C'est une belle assemblée pour écouter un orateur remarquable. Bien, je rappelle que, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes une association culturelle qui s'appelle le Forum Limoges-Charles-Gide et qui organisons une quinzaine de conférences par an avec des personnes de cette qualité. Et si de jeunes étudiants avaient envie de s'y inscrire, pour eux, nous avons fait un tarif spécial de 10 euros, 15 euros par an. Voilà. Autrement, pour les autres, ceux qui ont les adultes, si je puis dire, eh bien, c'est 30 euros par tête et 40 euros par couple. Voilà. Notre trésorier est là, il y a d'autres membres de Charles-Gide qui sont là et qui attendent les éventuels candidats. En tout cas, merci encore une fois d'être venus si nombreux. C'est la troisième fois, Michel, que le Forum Charles-Gide te reçoit. C'est dire si nous apprécions ton savoir. Ayant fait déjà donc deux fois ton panégyrique, je serai beaucoup plus bref. Ancien élève de l'École Polytechnique et de l'École Nationale Supérieure de la Statistique et des Études Économiques, par parenthèse, s'il y a parmi vous des jeunes qui sont dans les classes prépa mathématiques-sciences, c'est un très bon débouché et qui aura de l'avenir. Donc ancien élève brillant de l'École Supérieure de la Statistique et des Études Économiques, tu as été agrégé d'université en sciences économiques, professeur, notamment à Paris 10. Tu as été choisi pour faire partie du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre et tu es aujourd'hui membre du Haut Conseil des Finances publiques. Tu es l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages dont j'ai pas peur de dire que certains sont fondamentaux. Car en effet, Michel, tu as fondé, en mon sens, au moins deux écoles en économie, ce qui n'est pas fréquent. D'abord, l'école de la régulation, où tu m'avais embauché, je ne sais pas si tu t'en souviens, avec Robert Boyer à la suite de ta thèse. Et puis, tu as fondé, et il faut le répéter, une véritable nouvelle école sur la monnaie et la théorie monétaire, en enracinant la monnaie dans l'évolution de la société, avec quatre ouvrages majeurs que j'ose appeler d'anthropologie monétaire. D'abord, en 1984, tu as écrit « La violence de la monnaie » avec André Orléans, que nous avons d'ailleurs aussi reçu dans le forum. Puis en 1998, c'est le cœur de tes recherches, tu as écrit « La monnaie souveraine ». En 2002, toujours avec Orléans, tu as écrit, il faut que je retrouve le titre exact, mais c'est « La monnaie entre violence et confiance », voilà, je m'en suis rappelé tout seul. Et en 2016, enfin, un pavé de sciences monétaires, qui est d'ailleurs proposé, je crois, ici, et qui s'appelle « La monnaie entre dette et souveraineté ». Tout ça, chez l'éditeur Odile Jacquet. Franchement, je le dis à tous, et sans flagornerie aucune pour toi, il n'est plus honnête aujourd'hui pour un enseignant dans l'université de faire un cours sur la monnaie sans partir de tes recherches. Et je pense très sincèrement qu'elles auraient pu te valoir le prix Nobel d'économie, puisqu'il a été attribué à un Français, ce qui reviendra malheureusement un peu plus tard. Selon les nouvelles méthodes pédagogiques, tes écrits devraient au moins être le cours en ligne, le MOOC, de base à partir duquel nos chers collègues devraient bâtir leurs propres enseignements et surtout répondre aux questions que les étudiants se posent après les avoir lus. Tu t'es intéressé aussi à l'Europe et à l'euro, puis à la Chine, deux thèmes pour lesquels d'ailleurs nous t'avons reçu ici. Tu as le talent d'exposer des choses difficiles avec assez de clarté pour retenir l'attention de ceux dont l'économie n'est pas le passe-temps favori. Je suis certain qu'il va en être de même ce soir, mais je dois prévenir le public qu'il doit intensifier fortement son attention, surtout au début, car les données statistiques que tu nous fournis sont très complexes parce qu'elles sont réelles. Tu viens en effet nous parler du financement de la transition climatique et tu commences par des données de climatologie qui montre la sensibilité de l'économie à ce que tu appelles les extrêmes climatiques, des extrêmes dont nous avons en Europe et aux États-Unis subi déjà quelques conséquences, mais dont bien d'autres, depuis les ours blancs de l'Arctique jusqu'aux populations du Sahel, en subissent de bien plus grandes aujourd'hui. Il est bon que des esprits rationnels et scientifiques comme le tien valident à l'encontre de tous les clones, de tous les climato-sceptiques, ce qui a été le fondement de l'accord de Paris, à savoir que le sort de l'humanité aujourd'hui est lié à une dérive climatique dont l'homme est responsable. Certains ont d'ailleurs inventé le terme d'anthropocène pour distinguer l'ère géologique dans, la Terre serait entrée vers le 18-19e siècle, ère dans laquelle l'homme, par son activité, transforme profondément la planète. Les décisions prises à Paris à l'automne 2015, à la suite, il faut le reconnaître ce mérite, des efforts de l'actuel gouvernement, dont notamment Laurent Fabius et Laurent Stubiana, impliquent en effet des efforts financiers de toutes sortes, dont il faut décrire les fondements. Je sais, tu vas notamment, je le sais, parce que j'ai évidemment regardé déjà ton PowerPoint, nous parler du prix du carbone et de la taxe carbone, souvent évoqués tous deux comme outils de régulation des effluents anthropiques, mais dont le grand public ne comprend pas facilement, moi-même le premier, toutes les subtilités. Tu vas aussi mettre sur l'établi le principe de précaution, objet de violentes critiques aujourd'hui, tant son emploi poussé à l'extrême nuit à la prospérité. Je vais donc te laisser la parole, car le programme est chargé, mais une dernière remarque. L'homme, à travers les âges, a déjà subi de grandes variations climatiques, s'y est adapté, et il a même provoqué déjà des modifications de la nature plus restreintes. Par exemple, la dernière période glaciaire, et bien voilà, que Mounino a mis là, qui s'est produite entre moins 100 000 et moins 10 000, juste à l'aube de la révolution agricole du néolithique, a impacté profondément la faune et l'homme. Celui-ci, dans un sens, en a profité, puisque, c'est pas cette carte, excusez-moi, c'est une autre. Elle a permis notamment, cette période glaciaire, de moins 100 000 à moins 10 000, aux hommes de passer à pied de la Sibérie à l'Alaska, et puis de peupler les Amériques jusqu'au sud. Elle a permis aussi aux terres qu'on appelle aujourd'hui Australie, Tasmanie, Nouvelle-Guinée, de ne former plus qu'un continent. L'homme n'y était alors pour rien, mais il s'adaptait. Plus près de nous, une petite période glaciaire, alors cette fois-ci c'est une courbe, à partir du XIe siècle, a provoqué, au début du XIVe jusqu'au milieu du XVIIe, de fortes baisses de production agricole, donc l'affaiblissement des hommes, et qui n'ont pas pu résister du coup, notamment à la peste importée d'Asie. Il en est résulté, vous le savez bien, au début du XIVe, un effondrement de la démographie européenne. Mais il y a aussi des exemples d'impact de l'homme sur son environnement immédiat, décrit notamment par un auteur que je conseille à tous les jeunes qui nous écoutent, qui s'appelle Jared Diamonds, dans son livre « Effondrement », écrit en 2005. En Groenland, qui pourtant... Par l'origine, c'est un pays de verdure, green, c'est la verdure, selon l'étymologie, mais les habitants ont détruit la nature, entraînant d'ailleurs sa glaciation. Parce que, par des comportements, notamment vis-à-vis des bois et des forêts, inconscients. Et c'est la même chose pour l'île de Pâques, que les Maoris venus de Polynésie ont peuplée et plus ou moins détruite. Mais jamais, encore, l'homme n'a entraîné une modification de sa biosphère de cette ampleur, qui, si elle se poursuit, se rappelle que 7 milliards d'êtres humains ne pourront pas s'adapter sans fragilité. Le seul espoir, aujourd'hui, c'est que les hommes de tous les continents qui ont signé l'accord de Paris, dans une sorte de forme primitive de noosphère, pour reprendre le thème de Teilhard de Chardin que nous avons tous visité en décembre dernier, l'appliquent réellement. C'est dire l'importance de ce que va dire Michel. Écoutons-le ce soir avec plus d'attention que jamais.
Eh bien, bonjour tout le monde. Je suis toujours très content de venir ici à Nîmes, de temps en temps. Mais pour ça, il faut travailler beaucoup, vous avez vu, pour venir. Il faut avoir déjà produit des nouveautés à chaque fois. Donc, il y a un coup d'entrée quand même. Bon, ben, réussi à me dépasser. Et donc aujourd'hui, c'est la question de la finance climat, c'est-à-dire, alors on parle du temps d'action, c'est-à-dire qu'on espère qu'on va pouvoir enfin avancer dans la lutte contre le changement climatique par des politiques dans lesquelles l'économie est concernée et la finance est concernée. Alors en fait, j'aurais quatre parties à essayer de traiter. La première, c'est qu'est-ce que c'est que le risque systémique climatique et quel est son lien avec le risque financier. C'est ce qu'on va évidemment voir dans toute cette séance. Ensuite, ça implique des choix sociaux fondamentaux. S'ils ne sont pas réalisés, nous allons vers des problèmes extrêmement graves. Et donc, quels sont les choix sociaux fondamentaux qui sont des choix d'ordre politique et qui impliquent fondamentalement la responsabilité politique? La troisième, c'est si ces choix sont faits, quels sont les moyens de la transition climatique qu'il faut mettre en œuvre? Ces moyens sont très largement économiques et financiers. Et le quatrième, c'est cette question de la valeur carbone, la finance carbone, c'est-à-dire l'impasse qui est celle que les économistes cherchent à si vous voulez, seriner, c'est qu'un prix du carbone suffit à résoudre tous les problèmes, il n'en est absolument rien, comme vous allez le voir. Et la finance carbone est un instrument, plus qu'un instrument, est un déploiement d'un ensemble de moyens possibles pour essayer d'éviter la catastrophe. Alors, justement, là, je vous donne deux ouvrages chez ceux qui sont intéressés à méditer. Le premier est fait par un jeune économiste qui travaille dans les mêmes domaines que, disons, c'est les gens qui sortent d'une équipe CNRS qui s'appelle le CIRED et qui est vraiment spécialiste dans l'environnement, avec lesquels je travaille, car moi je ne suis pas du tout un économiste de l'environnement, donc vous voyez le caractère pluridisciplinaire qui est indispensable à ce problème, et qui a tiré de sa thèse ce livre qui s'appelle « Comment les économistes réchauffent la planète ». C'est-à-dire la perte de temps que nous avons eu depuis 1992, qui est la première convention climat, à jusqu'à aujourd'hui, du fait en particulier des erreurs de la science économique à l'égard des questions du climat. Et le deuxième, c'est une science-fiction, mais une science-fiction qui est quelque chose de très important, faite par des historiens des sciences américains, et qui est « Qu'est-ce qui peut se passer si on continue suivant la trajectoire d'aujourd'hui ?» Si on continue suivant la trajectoire d'aujourd'hui, on va probablement vers un effondrement complet de l'ensemble de la civilisation humaine. Et donc, ces livres-là font parler, font réfléchir, et c'est pour ça que je vous les conseille. Alors, la première partie, j'ai dit « Risques systémiques climatiques », quels sont les risques? Il faut les identifier. Alors, regardons déjà la question de ce qu'on appelle les risques physiques, qui sont les risques qui sont liés à des perturbations de l'environnement avec des effets sur la société extrêmement graves. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs types de risques qui sont liés à ce qu'on appelle des phénomènes extrêmes, qui ont donc des effets systémiques. Évidemment, celui qui est le plus mis en avant, c'est la hausse des températures moyennes de la planète. Celui-là, c'est le plus lent, c'est celui qui va durer au moins jusqu'à la fin du siècle, et qui, suivant son intensité, risque de nous faire plonger l'ensemble de la société humaine dans des problèmes d'une extrême gravité. Mais il n'y a pas que ça. Il y a, vous voyez, tout ce qui concerne l'augmentation l'élévation de la taille des mers à partir de la fonte des glaces polaires, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Vous voyez, si les glaces polaires fondent rien simplement du côté du pôle Nord, ça balaye une partie très importante de la côte asiatique, qui est extrêmement plate, extrêmement basse. Et donc, ça détruit, si vous voulez, déjà une grande partie de l'économie d'un certain nombre de pays. Or, là, comme je ne sais pas si vous avez vu, il y a une accélération, il semble qu'on a déjà une première bifurcation, il y a une accélération de la fonte des glaces extrême ces deux dernières années. Vous avez également la fonte du permafrost, c'est-à-dire les terres gelées de la Sibérie, de l'Alaska, etc., qui contiennent des masses énormes de méthane. Et le méthane a un pouvoir de pollution qui est environ 20 fois celui du carbone, celui du CO2. Ce qui veut dire qu'une fonte irréversible du permafrost aurait un effet de réchauffement extrêmement fort, même si le méthane ne dure pas très longtemps dans l'atmosphère, c'est ce qui est très différent du CO2, il pourrait avoir un effet extrêmement, et en plus un effet, si vous voulez, nocif d'un point de vue chimique, très important. Vous avez également l'effet de progressif de la température sur l'acidification des océans, qui a comme conséquence que le puits du carbone, les puits carbone, ceux qui absorbent le carbone, les océans profonds sont le plus important, eh bien, réduiraient leur capacité d'absorption, et donc vous avez à ce moment-là un processus cumulatif de hausse des températures qui peut en découler. Évidemment, tous les épisodes de pollution sévère, hein, comme nous en avons rencontré cet automne, dans le sud-est et à Paris notamment, pendant des périodes beaucoup plus longues que nous n'en avions l'habitude, comme il y en a énormément par exemple en Chine, dans une grande partie de l'Asie, ces épisodes de pollution sont extrêmement graves avec des conséquences humaines évidemment très importantes. Et les vagues de chaleur, et puis les ouragans, ça c'est les risques physiques instantanés qui peuvent se produire n'importe quand, mais dont la fréquence et l'intensité augmentent. Et ça, les sociétés d'assurance commencent à bien le comprendre, étant donné l'augmentation des coûts d'assurance. Eh bien, ouragan, inondation, sécheresse prolongée, tout ça constitue les risques physiques. À cela, il faut ajouter les risques de la transition climatique, c'est-à-dire si on fait la transition, ça a un effet de bouleverser la structure économique. Et en bouleversant la structure, on ne produira plus les mêmes liens, ça ne sera plus les mêmes secteurs de production, ça ne sera plus les mêmes types d'entreprises. Et bouleverser la structure économique entraînera des pertes considérables dans le capital qui est installé dès aujourd'hui dans des structures qui deviendront obsolètes si se fait la transition climatique, évidemment. Et ça, c'est ce qu'on appelle le risque de transition. Et donc, qui va modifier profondément, évidemment, tout le système productif et les modes de vie. Alors, ce qui compte, c'est ce que dit Marc Carmer, les catastrophes du futur sont dans les queues de distribution de probabilité d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de regarder l'augmentation moyenne de la température, il faut regarder, parce qu'on ne sait pas, on ne la connaît pas, l'augmentation future de la température, ce qu'on essaye de repérer, c'est la courbe de probabilité qu'il y ait telle et telle température. Et donc, plus la température moyenne augmente, plus la distribution, si vous voulez, des températures possibles, se densifie du côté des hautes températures, ce qu'on appelle les queues de distribution qui expriment justement les événements extrêmes. Et là, je vous en donne un exemple en ce qui concerne une simulation qui a été faite par les spécialistes du climat. Là, il n'y a pas d'économie là-dedans, ce sont des modèles de climat pur. Vous voyez, c'est-à-dire, quelle va être la température moyenne de l'été ? Dans une situation qui est celle du passé, et jusqu'au présent, dans celle qui serait d'une hausse de 2 degrés de température moyenne, et dans celle qui serait une hausse de 3 degrés. On ne fait que ça. Eh bien, vous voyez, la température fluctue évidemment en année après année, et donc ça donne, si vous faites les moyennes pour certains niveaux de température de l'ensemble de la planète, vous avez évidemment les pointes. Où sont les pointes? Et quels degrés sont les pointes? Vous voyez que la pointe la plus importante depuis déjà un certain temps, eh bien, c'est la fameuse vague de chaleur de 2003. Eh bien, la vague de chaleur de 2003 exprime la température la plus élevée par rapport à la température moyenne que nous avions, que nous avons dans la première décennie du siècle. Qu'est-ce qui se passe si la température moyenne est de plus de 2 degrés plus élevée? Donc là, ce sont les fluctuations de température possibles résultent de simulations avec beaucoup de données qu'on injecte dans un modèle qui permet de dégager, voilà, la température de l'été qui résulterait de tel et tel modèle. Et puis, à 3. Vous voyez qu'à 2, vous avez quand même des probabilités, vous avez un ensemble de températures non négligeables de l'été qui sont nettement au-dessus de la vague de chaleur la plus élevée à la fois du XXe siècle et puis en 2003, c'est la plus élevée depuis déjà très longtemps. Vous en avez beaucoup qui sont au-dessus, mais à 3 degrés, c'est une toute autre chanson. À 3 degrés de hausse moyenne, en quelque sorte, la vague de chaleur de 2003 exprime d'une certaine manière la température moyenne des étés. C'est-à-dire qu'il y aura des vagues de chaleur d'une intensité beaucoup plus forte et dont les conséquences sont à supporter. Vous voyez, c'est ça que les queues de distribution est ce qui peut se produire comme événement dès lors que nous augmentons la température moyenne. Le point important, ce n'est pas la température moyenne, c'est justement cette distribution de probabilité des très hautes températures. Et donc ça, c'est évidemment quelque chose d'essentiel. Et tous les problèmes qu'on va rencontrer se trouvent à travers ce phénomène. Il faut regarder ce que les économistes standards ne regardent pas, c'est-à-dire ce qui se passe dans les probabilités de très haute élévation de température ou de très haute concentration des gaz à effet de serre, etc. Alors, je vais vous parler dans cette logique-là. Alors, vous voyez ici autre manière de regarder les choses. Aujourd'hui, nous sommes sur une trajectoire catastrophique, si on la continue. C'est celle que vous voyez sur le graphique de gauche. J'ai peut-être quand même besoin moi-même de prendre des lunettes là. En termes d'intensité d'émission qui est là, et là en termes de hausse de température. Donc, comme ce sont des probabilités incertaines, au lieu d'avoir une seule courbe donnée, on a, si vous voulez, des plages d'évolution potentielle par rapport à certains risques. Bien, ce que vous voyez, c'est qu'il est grand temps, plus on va retarder, c'est ce que vous voyez ici. Si on ne fait rien, on va vers des émissions qui sont absolument désastreuses, qui mettent la civilisation humaine en péril. Si on fait quelque chose, plus on fera quelque chose tard, plus il faudra avoir une intensité d'action forte, et moins on obtiendra un résultat, malgré tout, qui soit un résultat qui nous permet de conserver les 2 degrés de hausse. Et on a une chance d'être au-dessus de 2 degrés en température moyenne. Et à droite, vous avez la possibilité des hausses de température en fonction de tel ou tel type d'action, qui permet d'agir sur ces queues de distribution, de ne pas agir dessus, suivant les cas. Et vous voyez que vous pouvez avoir des choses absolument catastrophiques, c'est-à-dire la courbe grisette la plus en haut, celle qui correspond au fait de ne rien faire, peut mener à des températures moyennes au-dessus de 4 degrés, et au-dessus de 4 degrés, on ne sait absolument plus ce qui peut se passer en termes de poursuite des activités humaines. On ne sait plus si la civilisation humaine, en tout cas la civilisation humaine telle qu'on la connaît, ne peut pas exister au-dessus de 4 degrés, et ça nous ramène au livre de tout à l'heure, l'effondrement de la civilisation occidentale. Donc c'est quand même quelque chose de très très important. En dessous, ce que vous avez, c'est ce que les économistes appellent value at risk, c'est-à-dire les pertes possibles qui se trouvent dans les fameuses queues de distribution. Alors, vous voyez à quel point la hausse de la température moyenne peut avoir des effets foudroyants. Si nous faisons, nous tentons de, c'est la dernière ligne en bas, si nous tentons de limiter la température à 2 degrés et si nous y arrivons, voilà les pertes possibles suivant la plage, l'endroit où on se trouve dans cette fameuse distribution des probabilités, puisque la moyenne n'est que la moyenne et on n'a pas de raison de se trouver à la moyenne. Vous voyez que ce qui est important, c'est de voir ce qu'on appelle le 95e centile et le 99e, c'est-à-dire ce qui a 5% de probabilité d'être une température plus élevée que celle qui est à la limite 95, et puis celle qui est plus loin encore, qui a 1% seulement de probabilité de se trouver à la limite 99. Eh bien, les pertes, les probabilités de perte sont très très fortes, vous voyez, et surtout à quel point ça s'accélère lorsqu'on va vers les queues de distribution. Vous voyez que le 95e décile pour une température de 2 degrés exprime environ 3% de risque de perte globale sur les actifs financiers, elle saute très vite à 9%. Si on est à seulement 2,5 degrés comme température moyenne du monde sur l'ensemble des années, vous passez, d'abord vous sautez très vite, de 92 devient 4,76 de probabilité d'être en dessus, d'avoir des températures plus élevées, et en 99 des 6, ça saute déjà à 16,86. Je ne vous dis pas si on fait le travail pour 4 degrés. Il faut retenir ça. Plus vous avez une température moyenne qui monte, plus vous avez une forte probabilité de température incontrôlable, qui soit à des niveaux extrêmes que, les connaissances humaines, la civilisation humaine telle qu'elle est organisée ne peut pas surmonter. Voilà le danger. Hein. Le danger est dans les queues de distribution, si j'ose dire. Alors, l'autre élément important, c'est le risque de transition. J'ai parlé du risque physique jusqu'à présent et jusqu'où il peut aller. Hein. Le risque de transition, comme je vous ai dit, c'est ce qui se passe si on fait quelque chose. Hein, encore une fois, si on fait quelque chose, ça va faire beaucoup de pertes à tous ceux qui ont investi dans des industries polluantes, qui ont des actifs dans des énergies fossiles, hein, et qui vont faire des pertes considérables si on fait la transition. Si on ne fait pas la transition, ils auront de toute manière des pertes, et toute la société, à ce moment-là, comme je vous l'ai montré, subira des effets catastrophiques. Si on fait la transition, il y a évidemment des changements dans la structure de production qui ont des conséquences considérables. Là, il y a une estimation, si vous voulez, assez bénigne hein, par rapport à tout ce qu'on peut voir, qu'on peut faire. Hein. C'est les pertes probables, on l'a fait pour l'Europe, hein, à travers de ce qu'on appelle des analyses de stress, des pertes probables d'actifs dévalorisés dans le cadre d'une transition qui est réussie et qui permet d'atteindre 2 degrés. La transition, il faut la faire. Et vous voyez que ça fait quand même des pertes assez importantes. Si vous détenez des actifs dans le charbon, vous avez des pertes d'au moins 50% de la valeur de vos actifs qui vont arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a ce que les anglo-saxons appellent des stranded assets, c'est-à-dire que pour faire la transition, il faut geler définitivement dans le sol un certain nombre d'actifs qui sont des énergies fossiles, qui sont aujourd'hui sous la forme de mines, hein, sous la forme de réserves pétrolières, etc., qui ne seront jamais produites, qui ne devront jamais sortir du sol. Sinon, on ne peut pas faire la transition vers 2 degrés. Et donc, il y a une perte considérable des détenteurs de ces actifs qui, dans leur valeur aujourd'hui boursière de ces entreprises, supposent qu'ils vont être brûlés, hein, que le pétrole va être brûlé, que le charbon va être brûlé, etc. Et donc, ils vont en tirer des profits qui n'auront jamais lieu si la transition se fait. Et ce que c'est que le risque de transition. Il est lié à l'opposé de l'autre. Il y aura moins de risques physiques si on avance dans la transition, mais cette transition est économiquement un processus très lourd, très très difficile. Avec des résistances par conséquent, ce qu'on appelle le lobby du carbone, hein, évidemment, les climato-sceptiques sont des scientifiques qui sont financés par le lobby du carbone à des prix très élevés, des rémunérations très élevées, pour dire qu'il n'y a rien. Hein. Donc les gens qui sont autour de Trump, par exemple. Hein. Et donc ça, c'est quand même très très important, c'est un combat politique considérable. Et vous voyez, bon, il y a des pertes considérables partout. Quelque chose d'essentiel, penser le risque de transition. Alors, je termine cette première partie avec une vue d'ensemble de quels sont les paramètres que l'on connaît très mal et qui sont néanmoins décisifs pour ces fameuses queues de distribution qui sont cruciales dans les risques que nous avons devant nous. Le premier, c'est ce qu'on appelle, ils interagissent les uns sur les autres. On connaît encore moins leur interaction entre eux, comment va. Le premier qui est très important, c'est la sensibilité climatique, c'est-à-dire quelle est la variabilité de la température pour un stock donné de gaz à effet de serre qui est dans l'atmosphère. Hein. Si ce stock de gaz à effet de serre augmente de tant de pourcents, de combien augmente la température? C'est très important, évidemment, parce que c'est là qu'on peut avoir des effets d'emballement. Eh bien, on ne sait pas très bien, hein, je vais dire, on ne sait pas très bien, mais enfin, il y a les travaux qui sont faits par le groupe, le GIEC, ce qu'on appelle le GIEC, hein, le groupe international là, de l'étude du changement climatique, hein, et qui est, vous voyez, la concentration de CO2, qu'est-ce qui se passe, comment elle augmente en fonction du fait qu'on passe de 380 à 440, qu'est-ce que ça fait en hausse de température, hein. Ça dépend de ce facteur de sensibilité. C'est ce qu'on appelle le forçage radiatif, c'est-à-dire une hausse de la quantité du stock de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, un effet sur la température incertain, qui peut être très élevé, moins élevé, tout dépend encore une fois hein, de la possibilité d'emballement. Ou pas d'emballement, vous voyez, c'est là qu'on est dans l'incertitude. Le deuxième élément, c'est justement les seuils. Il y a des seuils. Les climatologues le savent. Le problème, c'est de voir quand tel ou tel seuil est-il dépassé. Et à ce moment-là, vous risquez d'avoir un effet d'emballement. C'est pour ça que je vous parlais de ce qui se passe depuis 2 ou 3 ans, avec des fontes des glaces polaires qu'on n'attendait pas les spécialistes, à la rapidité extrêmement forte. C'est pas linéaire. Et tout d'un coup, vous avez des fonds très importants, vous avez des températures du pôle qui ont été à 0 degré. Et ce genre de choses, ce sont des seuils. Est-ce qu'on a déjà dépassé un seuil, d'ailleurs, hein, donc, avec ce type d'événement. Mais le point important, c'est que certains seuils peuvent déclencher des dommages sur lesquels on ne peut plus revenir en arrière. Ils sont cumulatifs, ils deviennent irréversibles. Et c'est ça qui peut créer ce que j'appelle des catastrophes durables, et donc du risque systémique. Donc vous avez ces seuils, très mal connus, mais liés à l'intensité de la densité, si vous voulez, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc, vous voyez, le problème de passer 5%, on ne sait pas trop ce qui peut se passer pour la société humaine, parce que les écosystèmes peuvent être détruits de manière irréversible. L'impact de la modification des flux d'émission sur le stock, les stocks auxquels se augmentent en fonction des flux supplémentaires qui interviennent, et se réduisent par les capacités d'absorption des puits de carbone. Les puits de carbone essentiels, ce sont les océans et les forêts tropicales. Eh bien, si cette relation flux-stock est modifiée parce qu'il y a moins d'absorption, vous voyez qu'un flux va créer une augmentation du stock plus forte, dans la mesure où il y aurait des capacités d'absorption qui baissent. Et comme je vous l'ai dit, c'est un processus de cercle vicieux. S'il y a plus de densité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, les océans deviennent plus acides et donc absorbent moins. Donc il y a une augmentation du stock qui en découle plus important. Voilà un effet d'emballement. Le dernier élément, c'est que nous vivons dans un monde hétérogène avec des nations différentes qui ont des objectifs différents, qui n'ont pas les mêmes niveaux de développement, etc. Et donc, quelles vont être les conséquences sur les climats régionaux? Il ne suffit pas de dire que la température moyenne, il faut la limiter. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer dans certaines zones? Est-ce que l'Afrique si l'Afrique est beaucoup plus sensible à une hausse de température qui, en moyenne, dans le monde, pourrait apparaître comme, si vous voulez, tolérable, eh bien, vous voyez ce que ça veut dire. Ce qu'est la population africaine? Si l'Afrique devient vivable, la nature des mutations et des transferts de population par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, qu'on est incapable de gérer dans le type de démocratie que nous avons, qu'est-ce que ça sera si vous avez, des millions de gens qui doivent sortir d'Afrique pour aller dans des zones qui restent vivables? Donc, on est très très mal outillé pour l'instant sur la connaissance de la répartition des hausses de température qui pourraient se produire lorsque la température moyenne augmente beaucoup. Voilà. Donc vous voyez que ce que c'est que les fameuses possibilités d'évolution catastrophique, ce qu'on appelle le risque systémique. Alors, par rapport à ça, la plupart des gens raisonnables disent qu'il faut faire quelque chose. Même s'ils ne savent pas quoi faire, même s'ils ne voient pas, si vous voulez, ce que ça veut dire, comme effort pour eux, etc. Et donc, c'est la question des choix sociaux. Alors, comment ça s'exprime? C'est là que l'économie peut commencer à jouer un rôle. Là, je vais aller très vite parce que c'est plutôt pour les économistes, et tout le monde n'est pas économiste ici. L'idée, c'est que la théorie économique prétend avoir une réponse. En effet, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui est crucial? Vous avez un processus qui se développe dans le temps, et dans le temps long, pensez la fin du siècle. Et la valeur du temps est très importante. Vous allez investir ou pas en fonction pour le changement climatique suivant la valeur que vous donnez au temps. Si vous êtes vraiment, vous avez une très forte préférence pour le présent, et si la société a une très forte préférence pour le présent, à ce moment-là, il sera très difficile de faire les investissements nécessaires. Parce que les gens se ficheront de ce qui se passe dans 100 ans. Et pourtant, la société humaine a un avenir qui dépend de ce qu'on va faire dans les 100 ans qui viennent. Et donc la question du taux d'actualisation est essentielle, c'est-à-dire le taux auquel les gens qui veulent faire des investissements dans le bon sens, des investissements pour améliorer le climat dans tous les domaines, bâtiments, transports, les biens de consommation, etc. Et pas seulement dans l'énergie. Non, absolument partout on doit faire des efforts. Eh bien, suivant le taux d'actualisation, c'est-à-dire le taux d'intérêt auquel ils vont calculer les profits qu'ils vont tirer de leurs activités dans le futur. Si ce taux est trop élevé, eh bien, ceci réduit l'intérêt à faire des investissements. Parce qu'il faut à ce moment-là être sûr d'un rendement qui est au-dessus du taux d'actualisation, qui est, si vous voulez, le taux d'intérêt du marché, quoi. Moyen, hein. Vous n'avez pas à investir si ce n'est pas rentable pour vous. Vous êtes un acteur privé. D'accord, vous travaillez pour le climat, mais vous travaillez dans une économie capitaliste, avec des entreprises privées qui ont besoin que le rendement financier, disons, soit un rendement positif par rapport au rendement social. Ils ne sont pas des altruistes de la société. Hein. Et donc, il faut arriver à faire en sorte qu'il y ait une incitation à ce que des gens qui portent des projets, des micro-projets, hein, en faveur de la transition climatique, par exemple des logements beaucoup mieux, si vous voulez, isolés, des logements qui ont des capacités de création de l'énergie, de ressources mêmes, la chaleur transformée à l'énergie dans le logement lui-même, hein, donc c'est des modifications du mode de production, eh bien, il faut que ces gens-là aient intérêt à le faire. Et donc, ça, c'est le taux d'actualisation. Eh bien, ce taux d'actualisation, c'est seul, contrairement à ce que racontent les économistes, ce n'est pas le marché qui peut le donner. Il n'est complètement aveugle vis-à-vis du type de problème que nous avons. Seule la puissance publique peut le donner. Et en effet, il dépend de deux choses importantes, la préférence sociale de temps. Et ça veut dire, c'est pas pour ce que l'un ou l'autre de nous pense. On peut avoir certains des préférences individuelles de temps. Certains sont des économes, hein, hein, d'autres sont des prodigues, etc. Mais c'est pas ça qui compte, c'est celui de la société dans son ensemble. Eh bien, dans une société hétérogène, avec des gens de différentes, si vous voulez, mentalités vis-à-vis du futur, il y a un théorème qui a été démontré une fois pour toutes, hein, d'ailleurs, c'est que le marché ne peut pas définir, sortir une préférence sociale de temps qui est une cohérence, si vous voulez, logique. Cohérence logique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, si vous préférez une éventualité A à une éventualité B, et que vous préférez B à C, il faudrait que vous puissiez préférer A à C. Hein? Eh bien, l'agrégation de préférences privées hétérogènes ne le permet pas. Et donc, aucune procédure partant du marché ne peut agréger des préférences individuelles pour fabriquer une préférence sociale cohérente. Seule, si vous voulez, la société considérée comme un tout peut le faire. Et comment la société considérée comme un tout peut s'exprimer? Par le politique. Donc, vous avez nécessairement, le taux d'actualisation doit essentiellement dépendre du politique. Et donc, c'est un très gros problème dans nos sociétés libérales, et c'est ce que disait le livre dont je vous ai parlé, « Comment les économistes réchauffent la planète ». On a passé plus de 20 ans, jusqu'à la COP21, à aller dans le mur, c'est-à-dire en essayant de chercher à partir du marché un bon taux d'actualisation qui allait faire les bons investissements. Évidemment, rien n'a été fait. Vous voyez, cette question est quand même cruciale. Donc, le politique est au-dessus de l'économie. Et il faut absolument le comprendre. Et on va voir, alors, c'est pas n'importe quelle politique, c'est ce qu'on va voir. Voilà. Et l'autre élément important, bon, ça va bien avec ce que j'ai dit, passe sur celui-là. L'autre élément important, c'est la tragédie de l'horizon. Vous voyez, c'est toujours le temps qui est en cause. La notion de tragédie de l'horizon, le terme, si vous voulez, joli, hein. Il a été mis en avant il y a peu de temps, quoi, c'est à l'automne de l'année 2015, par le gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui est un des responsables les plus sensibles au problème. Il s'appelle Mark Carney. Tragédie des horizons, ça veut dire la chose suivante. Lorsqu'on a des investissements à effet très long, et là, voyez-vous, dans le changement climatique, c'est les investissements à effet plus long auxquels on peut penser. Pensez au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge était capable de produire des cathédrales, de construire des cathédrales qui duraient, dont le temps de construction pouvait durer 80 ans, 100 ans. La préférence de temps était donc très faible, c'est-à-dire que la préférence pour le présent était très faible. C'est parce que les acteurs de cette époque, pensant par le religieux, le surnaturel, auquel était si vous voulez, décerner les églises, eh bien, ils étaient capables, en effet, de mobiliser mobiliser des ressources pour produire pendant 100 ans, pour arriver à, si vous voulez, quelque chose qui avait une valeur symbolique. Et là, on n'est pas dans les valeurs symboliques, mais on est dans des valeurs de survie de l'humanité. Et donc la question, elle est là. La tragédie de l'horizon, vous voyez, c'est que les individus au pouvoir aujourd'hui, et les individus qui sont à la tête de la finance d'aujourd'hui, a priori se fichent totalement de conséquences catastrophiques qui sont au-delà de l'horizon et de leur capacité de décision, ou au-delà de l'horizon de leur propre vie individuelle. Ce qui est ça la tragédie. C'est-à-dire que si on prend les choses à partir de l'intérêt économique immédiat, ou de l'intérêt politique d'un politique qui cherche, qui n'a pas un horizon plus loin de 5 ans, puisque c'est l'horizon de sa réélection. Il est clair que nous n'avons pas le système d'une représentation du social qui va nous permettre d'avoir une clarté vis-à-vis d'investissement dont les effets positifs se produiront si une transition a lieu dans 50 ans. Et c'est là la question. Or, il faut faire ces investissements dès aujourd'hui pour dans 50 ans. Et donc, il faut pouvoir briser la tragédie de l'horizon. Et briser la tragédie de l'horizon suppose une mutation du politique. Et c'est quand même un très gros problème. Il y a eu des mutations du politique dans les différentes révolutions industrielles qui ont existé dans le passé. La mutation du politique est indispensable aujourd'hui, c'est celle de la révolution environnementale. Mais en tout cas, il s'agit d'un enjeu collectif fondamental et non pas de quelque chose que le marché peut résoudre. Donc j'espère vous avoir convaincu sur cet élément-là qui est vraiment décisif. Hein. Et donc à ce moment-là, vous voyez, une autre manière de prendre les choses, c'est un économiste hein, qui a quand même mis ça en avant, très puissant, hein, Martin Weissmann. Pourquoi ? Parce que lui, il s'occupe des queues de distribution dont je parlais tout à l'heure. Il ne s'occupe pas de la moyenne. Il s'occupe de ce qui peut se passer si il y a des phénomènes d'emballement dont j'ai parlé tout à l'heure qui poussent la température dans la queue de distribution de probabilité. Et c'est ce qu'il appelle le théorème lugubre, Dismal Theorem. Il montre que, en effet, un désastre écologique a des effets sur toute la société, sur ce qu'on appelle l'utilité sociale, hein. Qui augmente de manière exponentielle, donc qui va vers une détérioration du bien-être, si vous voulez, qui est une fonction exponentiellement croissante de la fameuse variable dont j'ai parlé tout à l'heure, la sensibilité climatique. C'est-à-dire si donc ce lien entre le stock de gaz à effet de serre et la hausse du climat augmente rapidement, ceci a une conséquence qui est une baisse exponentielle de la valeur, de toutes les valeurs, de tous les biens que nous pouvons posséder, des actifs, des biens, de n'importe quoi, et donc qui détruit le bien-être de la société. Voilà, c'est ça le théorème lugubre. Et le théorème lugubre rationalise par conséquent un principe de précaution, qui est que pour éviter ces situations à un risque potentiellement illimité, eh bien, il faut, parce qu'il anéantirait la richesse, c'est ce qu'on appelle le risque systémique climatique, eh bien, il faut dès aujourd'hui absolument investir et par conséquent, il faut briser la tragédie de l'horizon. Et donc, voilà où est le problème que nous, pour l'instant, nous n'avons pas résolu dans aucune, peut-être un peu plus en Chine. Pourquoi ? Parce que vous avez une vision de long terme du gouvernement chinois, mais en tout cas pas dans les démocraties occidentales. Alors, compte tenu, et ça c'est vraiment les éléments cruciaux, c'est-à-dire s'il n'y a pas cette prise de conscience collective exprimée politiquement par la définition de ce que je vais appeler une valeur sociale du carbone et un taux d'actualisation qui permet l'investissement à long terme, eh bien, donc c'est d'une manière extrêmement précise hein, que doit s'exprimer la prise de conscience politique. Il ne suffit pas de faire des discours. La menace d'aller vers des queues de distribution en qui crée le théorème lugubre devient d'autant plus importante. Voilà, si vous voulez, mis sur la table, si vous voulez, le problème politique et la responsabilité du politique à cet égard. Alors, je parlais de valeur sociale du carbone. Et là, je rentre maintenant dans les moyens et dans ce qu'on a commencé à faire quand même. Hein. Là, j'avais dit, on n'a rien fait. Maintenant, je vais mettre un bémol. Ce qu'on a commencé à faire depuis peu de temps, depuis la COP21. La COP 21 est une prise de conscience qui commence, même si elle reste très qualitative, si vous voulez, et très peu pour l'instant, en donnant lieu à très peu d'action. Mais néanmoins, elle est importante parce qu'on peut s'engouffrer dedans et travailler, ce qu'on ne pouvait pas faire jusque-là. Le protocole de Kyoto était uniquement un protocole sur un prix de marché, et puis c'est tout. Je vous montrerai à quel point un prix de marché mondial est une stupidité. Donc, la COP 21, elle dit ça. Elle parle des modèles financiers. Elle dit que c'est la finance qui doit être, si vous voulez, au cœur de la lutte contre le changement climatique. Car c'est elle qui mobilise les masses d'épargne pour investir. Et donc pour investir dans les bons investissements de la transition. Eh bien, l'article 2 dit ça. Il faut aligner les flux financiers sur un modèle de financement qui fait d'une priorité absolue les investissements bas carbone. Il y a une décision, ça c'est l'accord de la COP 21 doit prendre, si vous voulez, effet à partir de 2020. Mais pour la période transitionnelle jusqu'en 2020, il y a ce qu'on appelle les décisions, il y a différentes décisions, dont l'une est justement qu'il faut que les gouvernements, peut-être différemment les uns des autres, mais les gouvernements définissent une valeur sociale du carbone. C'est-à-dire disent, à partir de maintenant, le carbone vaut quelque chose pour la société, et tous les calculs économiques de tous les acteurs économiques doivent dépendre, incorporer cette valeur sociale du carbone dans l'ensemble des calculs. Et donc, ça, évidemment, on commencerait à changer profondément la structure économique à partir des investissements qui incorporeraient cette valeur. Et c'est ça la question. Donc il faut pouvoir définir cette valeur. Je vous l'ai dit, elle n'est sociale, le marché ne peut pas la définir, et par conséquent, elle a de la responsabilité des peuples. Mais pour la définir, ben, il faut avoir des bases. La politique ne peut pas, si vous voulez, tirer au sort la valeur en question. Et les bases, c'est la recherche qui commence à être engagée par le G20. Une recherche sur, si vous voulez, les paramètres du changement climatique, leurs mesures, et la manière dont ils peuvent être exprimés en termes de leurs conséquences économiques. Ce qui permet à ce moment-là aux financiers de voir des risques qu'ils ne voient pas aujourd'hui, et donc de prendre des décisions qui seront des décisions mieux fondées en termes de l'objectif futur, qui est de briser la tragédie de l'horizon. Donc il faut mesurer, et on commence seulement à mesurer. Je ne parle pas de mesurer des climatologues, je parle de mesurer les conséquences économiques. Et donc, il y a un pivot, si vous voulez, de toutes ces mesures, qui est la valeur sociale du carbone. Il faut donner une valeur à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Dire que la société en reconnaît une valeur, et une valeur qui est, si vous voulez, caractéristique de la prise en compte du besoin de lutter contre une menace qui peut être une menace mortelle. C'est ça l'idée de la valeur sociale du carbone. Et donc c'est ça sa signification. Et en réalité, pour aller maintenant dans des choses plus précises, il faudrait une valeur sociale du carbone qui aboutisse à ce qu'on appelle une neutralité carbone en 2050. Voilà l'idée. Qu'est-ce que ça veut dire une neutralité carbone? Ça veut dire que le montant des émissions que l'on aurait à partir de 2050 serait égal ou plus faible aux capacités d'absorption. Ce qui veut dire qu'il y aurait une baisse nette des émissions de carbone progressivement qui baisseraient au cours du siècle à partir de 2050 pour arriver à une société qui aurait enfin maîtrisé en 2100 le problème du changement climatique. Cette valeur sociale du carbone est donc liée à la neutralité carbone. Il faut donc maintenant faire du travail, du calcul, pour essayer de définir non pas une valeur unique, ben, c'est impossible, étant donné les incertitudes qu'il y a, mais une plage possible dans laquelle les différents gouvernements devront choisir en fonction du lien entre la nécessité de faire la transition et leurs problèmes de développement. Et c'est en ça d'ailleurs, vous comprenez bien que vous avez l'Inde d'un côté, vous avez les États-Unis, la responsabilité en termes de contribution au changement climatique n'est pas la même. C'est les stocks de CO2 dans l'atmosphère qui sont importants. Or, les pays industrialisés, n'oubliez pas que le carbone reste 200 à 250 ans dans l'atmosphère. Ce qui veut dire que le stock d'aujourd'hui, la responsabilité la plus importante, c'est nous qui avons fait la révolution industrielle au 19e siècle et au 20e siècle. Hein. En conséquence, les pays émergents qui commencent aujourd'hui leur développement et essayer de s'arracher l'extrême pauvreté, ils vont dire, ben, la responsabilité, elle est d'abord chez vous. Et par conséquent, il y a un problème de partager les coûts. Or, le marché, alors vous voyez, ce n'est pas un problème de marché, c'est vraiment un problème de choix politique et de lutte politique, en fait. Et il faut avoir un point de vue suffisamment universel de l'intérêt de l'humanité dans son ensemble pour arriver à rendre compatibles ces grosses différenciations qu'il y a entre les pays. Vous voyez pourquoi ces négociations climatiques sont très difficiles. Donc l'objectif, c'est la neutralité carbone. Alors, pourquoi le marché du carbone est un échec de ce point de vue-là? Ben, je l'ai déjà dit, du point de vue de personne ne peut se mettre d'accord là-dessus, compte tenu de l'antériorité de certains pays par rapport à l'autre. Ils ne le reconnaissent pas. Les pays émergents disent c'est à vous de faire l'effort. Les autres disent mais non, c'est vous qui faites le plus de flux aujourd'hui, mais les autres disent c'est pas les flux d'aujourd'hui qui comptent seulement, c'est les stocks qu'on a déjà accumulés, hein, etc. Bon, il y a ça. Mais il y a aussi ce problème, si vous voulez, du marché du carbone. Il ne peut pas être un marché comme les autres. Pourquoi? Eh bien, parce qu'un marché ordinaire, il se crée spontanément à partir des comportements des agents, de l'utilité de nouveaux biens, et hop, il se crée un marché qui s'ajoute aux autres marchés, qui se transforme, et c'est comme ça que l'économie de marché fonctionne. Et le carbone, c'est pas ça, comme vous l'avez vu. Il n'y a pas de prix. Dès lors que la puissance publique ne l'a pas instauré. Où il n'y a pas une autre manière de voir les choses, hein, c'est de dire, si je veux un marché du carbone, c'est la quantité que je contrôle, et à partir du moment où je contrôle la quantité, un prix peut apparaître. Mais là, qui définit la quantité contrôlée? La puissance publique. Ce n'est pas le marché qui va définir une quantité contrôlée de gaz à effet de serre à éviter, à partir duquel un marché peut exister. Donc le marché n'a jamais existé, avant que certains États disent ben, « nous voulons ça plutôt qu'une taxe », on va voir l'intérêt de la taxe tout à l'heure, mais ça veut dire « je définis une décision publique hein, », en zone euro c'est bien ça, « nous donnons une décision publique de quantité maximale d'émissions que vous, pendant une période de tant de temps, entreprise charbonnière, entreprise cimentière, entreprise productrice d'électricité, vous n'avez pas le droit de produire plus que ça. C'est votre quota. Et si le quota n'existe pas, il n'y a pas de marché. Donc aucun marché spontané ne peut exister. Le marché est forcément créé par l'État. Alors la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux créer un marché absolument ou simplement mettre une taxe? C'est-à-dire faire fonctionner les marchés qui existent de tous les biens, avec, en y incorporant une valeur du carbone, un prix du carbone dedans, ce qui va évidemment modifier l'ensemble des prix des biens et qui va faire bouger les choses. Alors, les théoriciens économiques, eux, ils en sont, si vous voulez, ils sont dans un univers purement abstrait. Dans un univers purement abstrait, dit de concurrence pure et parfaite, c'est pareil, c'est équivalent. Mais on ne fit pas un style d'univers, comme je vous l'ai montré, on ne peut pas arriver à définir le marché, etc. Donc la taxe est meilleure, a priori, dans l'univers imparfait et très, si vous voulez, conflictuel entre ce que les pays pensent qu'ils sont responsables et qu'ils doivent faire, eh bien, le mieux de faire, c'est d'essayer de taxer au des niveaux nationaux en fonction des objectifs des pays liés à leurs objectifs de développement. Donc, on abandonne l'idée d'un marché universel du carbone qui supposerait un gouvernement universel. Oui, puisque seul l'État peut le faire, un gouvernement universel pourrait définir un prix du carbone pour le monde entier. Quand on dit ça, on a compris l'absurdité. Hein, aller chercher un gouvernement universel dans le monde du 21e siècle, tout au moins de la première partie du 21e siècle. Et donc, les économistes ont fait perdre beaucoup de temps parce que Kyoto, c'était ça. C'était cette idée d'aller vers un marché universel du carbone et que ceci suffirait à résoudre tous les problèmes dès lors qu'on aurait un prix, le marché étant magique, permettant, si vous voulez, à ce moment-là, de régler tout le problème climatique. Donc cette absurdité-là, maintenant, a été dépassée, notamment par la COP21. On a quand même un marché qui permet de voir pourquoi que ça fonctionne quand même très mal, c'est le marché européen, hein. Le marché européen de ces fameux droits à polluer. Vous voyez où on en est. Là, c'est le prix qui est observé sur ce marché. Il n'a fait que baisser. Pourquoi il n'a fait que baisser? Ben, d'abord, parce que, étant donné qu'en Europe, vous n'avez pas de puissance publique qui décide, ça a été une discussion de marchand de tapis entre les gouvernements, chacun voulant pousser ses propres industries en disant « je ne veux pas que ce soit les miennes qui soient lésées par l'existence de, tout d'un coup de cette quantité maximale ». La discussion de marchand de tapis est allée avec à définir des quotas beaucoup trop élevés et donc n'a absolument pas contraint, hein, si vous voulez, à réduire les émissions. Voilà comment un marché fonctionne mal. Hein. Parce que le processus politique qui est à sa base n'est pas sous la dépendance d'une autorité qui décide, c'est ça que je prends, que je vous dis de prendre comme quantité maximale ou pas dépassée. De sorte qu'on a eu des choses extrêmement scandaleuses. Et les ciments, les gens ont fait des rentes, les pollueurs ont fait des rentes grâce au marché du carbone. Parce qu'on leur a donné des quotas tellement importants qu'ils n'avaient pas besoin de les... Donc ils les ont revendus à d'autres, les cimentiers ont gagné énormément d'argent. Or, le ciment est l'une des industries les plus polluantes. Hein. Les électriciens ont répercuté tout ça dans leur prix de vente. Hein. Donc de toute manière, ils n'ont rien perdu. Donc aucune contrainte liée au changement climatique n'est apparue dans ce marché. Alors on peut l'améliorer. On peut l'améliorer, voilà trois possibilités. Définir un prix plancher, donc il faut que tous les gouvernements européens se mettent d'accord en disant, voilà, nous, gouvernements européens, nous disons que le prix plancher est de tant. Certes, ils n'ont jamais été capables de le faire jusqu'ici. Ou bien un corridor de prix, qui peut prendre en compte l'incertitude possible, ou bien on pique les quotas, c'est-à-dire on reprend les quotas à ceux qui manifestement en ont trop, et on les stérilise. Mais il faut une décision politique pour ça, encore une fois. Et vous voyez à quel point l'Europe est en état de non-coordination, puisque pour un problème vraiment crucial, concernant la vie des gens dans le futur en Europe, eh bien, ils sont absolument incapables de se mettre d'accord pour faire fonctionner ce marché. Et vous voyez ce qu'il faudrait comme hausse, suivant les différentes hypothèses en termes de hausse de température, pour la contrer, ce qu'il faudrait comme hausse de prix, elle peut être très, très importante, puisqu'elle peut aller de 50-60 à 200 euros par tonne de CO2 évité. Hein? On est à 5. Hein? Donc voilà un peu le problème de ce marché. Alors si ce marché ne va pas, il vaut peut-être mieux voir la taxe. Hein? Parce que là, au moins dans une taxe, le gouvernement dit tout de suite, hein, voilà le prix, c'est celui-là, à travers la taxe. C'est la souveraineté étatique qui définit la taxe. Qu'est-ce que ça fait et en quoi ça peut marcher plus ou moins bien? La question qui est sans arrêt posée, c'est la taxe risque de réduire une croissance qui est déjà très basse, hein, en Europe. Parce que si vous avez seulement une taxe carbone sans rien, de plus, vous augmentez la fiscalité de l'ensemble de l'économie. Hein. Et par conséquent, vous réduisez les incitations à l'activité économique, ça c'est clair. Vous réduisez la compétitivité avec l'étranger, puisque ça va se retrouver dans les prix du commerce extérieur. Et vous réduisez le pouvoir d'achat des gens, puisqu'ils vont payer une taxe supplémentaire de toutes les manières, soit directement, soit indirectement. Donc la demande va être plus faible, à l'intérieur, et à l'extérieur, c'est la capacité à être compétitif qui se réduit. Donc on y perd. D'où l'idée de dire, ce qui va être important, eh bien, je vais plus loin, est-ce que la taxe peut quand même être bénéfique? C'est-à-dire, est-ce qu'avec une taxe carbone, je peux booster la croissance? Ah, vous voyez le point intéressant. On sait qu'il faut changer la structure de production. C'est le rôle de la taxe carbone. Investir plus dans des industries non polluantes et réduire l'investissement et par conséquent réduire l'importance des industries polluantes. Et c'est comme ça qu'on change progressivement le système productif. Hein? Le point important, c'est le niveau total de la croissance. Hein, si la taxe carbone est une taxe carbone en plus des taxes existantes, vous allez avoir un effet de baisse de la croissance globale. Il n'est vraiment pas, brillant aujourd'hui, et donc vous avez des résistances considérables. Bon.
Alors, ça veut dire qu'il faut faire autre chose. Il faut modifier le système fiscal de façon à ce que la taxe soit neutre. La taxe carbone augmente et il faut en réduire en contrepartie d'autres taxes, en espérant que l'effet net serait positif à la croissance. C'est ce qu'on appelle le double dividende. C'est-à-dire on aurait à la fois une évolution vers positive par rapport au changement climatique, on modifierait la structure de production, mais sans réduire le niveau de la production lui-même, hein, le niveau du PIB. Et donc l'idée c'est de compenser ça en réduisant les prélèvements sur le travail qui permettent aux entreprises d'avoir un coût salarial plus faible et donc a priori leur donnerait la possibilité d'avoir un taux de profit meilleur et donc d'investir mieux. Mais la question c'est où on fait porter encore une fois la compensation de la taxe carbone, hein, où on la fait porter. Et donc le double dividende, ça serait ça. Alors on dit que si normalement les économistes sont contre. Ils sont contre parce qu'ils disent, nous vivons, ils posent l'hypothèse qu'on vit déjà dans un monde parfait, qui est optimal, c'est quand même extraordinaire. Hein. Donc à partir de ça, mettre une taxe carbone, c'est créer des distorsions dans la structure, donc forcément ça sera négatif. Pour que ça soit positif, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut la situation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la fiscalité est très inéquitable. Si elle n'était pas inéquitable, la répartition des revenus ne serait pas aussi inégalitaire. Elle est très inéquitable et d'autre part, on n'est pas dans une situation de plein emploi qui pourrait être menacée par la taxe carbone. On est dans une situation de stagnation aujourd'hui. Stagnation séculaire, c'est de croissance très basse. Donc on est dans une situation de très importante, si vous voulez, sous-optimalité, en somme, hein, par rapport à ce que les économistes voudraient. Donc a priori, c'est positif, un double dividende. La question, malgré tout, c'est les réactions des acteurs économiques à ça. D'où l'idée, aujourd'hui, qu'il y ait double dividende, il faut qu'il y ait une certaine équité, que le partage de la compensation de la taxe carbone, c'est-à-dire la réduction des impôts, soit partagée entre les entreprises et les salariés de telle manière que tout le monde puisse y gagner et qu'il y ait finalement une coopération qui se fasse pour la production. Hein? Il faut donc surtout que la taxe, si vous voulez, doit réduire le coût de la production, mais elle doit aussi favoriser les salariés, sinon il y aura une résistance à la taxe carbone. Et donc voilà, ça veut bien dire quelque chose, vous voyez, très important à quel point le changement climatique est lié à toute la gestion de l'économie. Car il faut pouvoir transformer la production vers le bas carbone à partir de négociations entre les salariés et les entreprises qui permettent de partager la baisse des impôts qui vont, il ne faudrait surtout pas que ça aille simplement favoriser les riches, hein, enfin, vous n'aurez rien du tout. Il faut que ça soit sur la production que ça se passe et il faut suffisamment d'équité pour que ça soit accepté par la population dans son ensemble. Voilà donc le problème, mais il peut y avoir dans ce contexte-là un double dividende, mais vous voyez à quel point ceci dépend de la capacité du politique à comprendre ce qui se passe. Et c'est, je le sais, c'est extrêmement difficile à faire comprendre aux politiques. Des questions que j'espère que vous ici vous comprenez, mais le politique ne comprend pas parce qu'il a d'autres intérêts et d'autres objectifs. Et donc voilà le cercle vertueux qui peut en découler, hein. Le cercle vertueux c'est celui-là, vous voyez, si on fait donc taxe carbone et baisse des cotisations bien partagées comme j'ai dit tout à l'heure, vous voyez ce qui peut être vertueux, c'est ça. D'un côté vous avez ce transfert de charges fiscales, moins des coûts de production plus faibles. Les coûts de production plus faibles pourraient augmenter la compétitivité prix au lieu de l'amputer, et par conséquent, hausse de l'activité par les exports. Mais elle aurait aussi un effet sur le revenu national. Les gens payant moins d'impôts sur leur salaire consommeraient plus. La hausse de la consommation entraîne une hausse d'activité, et l'autre qui vient se joindre avec la hausse d'activité augmentée par une meilleure compétitivité, à ce moment-là, vous avez un cercle vertueux, hausse de l'emploi, hausse de la consommation. Mais la taxe carbone permet que cette hausse de la production d'ensemble change en structure grâce à la taxe carbone. Hein. C'est la taxe carbone va réorienter cette production dont on espère qu'elle ne va pas baisser mais monter, l'orienter dans le sens des industries bas carbone. Et donc là, vous avez rayé quelque chose de vertueux. Hein. Mais vous voyez l'extrême difficulté pour ça, il faut un contrat social. Il faut véritablement changer les relations antagoniques qui existent aujourd'hui du fait de l'extrême montée des inégalités qui ont été liées à la financiarisation de l'économie dans les trois dernières décennies. Donc, c'est une révolution à la fois politique et économique qui est en cause, si on veut véritablement s'attaquer au changement climatique. Mais ça va très très loin, beaucoup plus loin que dire il y a un prix, un marché, puis c'est terminé. Voilà la question de fond. Alors, la finance, est-ce que j'ai encore du temps? Je ne sais pas. Hein? Quelques minutes pour la finance. Hein, quelques minutes pour la finance. Bon, alors je vais aller quand même assez vite. Donc là, je vous rappelle Marc Carmen. Le problème de la transformation en économique implique de vaincre la tragédie des horizons. Vous avez des travaux qui commencent, c'est ça important. Hein. Pour pouvoir faire cela, encore une fois, la finance est essentielle, car c'est elle qui mobilise l'épargne. Les masses d'épargne oisives sont très importantes. On ne manque pas d'épargne dans le monde. Hein. Hein, on en a trop. On en a trop qui ne fait rien. Hein. Voilà ce qu'est aujourd'hui la situation économique. Pour la mobiliser, et dans le bon sens, hein, dans le sens de la transition climatique, eh ben, encore une fois, il faut que ceux qui orientent l'épargne, qu'on appelle les investisseurs institutionnels, les banques publiques de développement, enfin tout ce qui est acteurs financiers, eh bien, ils aient les bonnes incitations et par conséquent commencent à avoir les bons repères, les bonnes mesures, les bons critères. Or, aujourd'hui, ils ne l'ont pas. Personne ne sait véritablement, donc il y a des travaux qui commencent à être faits dans des groupes financiers, qui est comment est-ce que je fais pour passer du portefeuille de marché que j'ai aujourd'hui. Portefeuille de marché, ça veut dire la diversité des actifs dans lesquels j'investis. Je suis un fonds de pension, j'investis dans telle industrie, j'investis dans le bâtiment, dans l'immobilier, j'investis dans l'énergie, j'investis, etc. Ça me fait mon portefeuille financier. Portefeuille financier, aujourd'hui, ben, il est ce qu'il est. Hein, c'est le business as usual. Il va pas vers le carbone. Comment passer à ce qu'on appelle un portefeuille de degré, c'est-à-dire le portefeuille d'actifs qui permettrait de réorienter l'épargne vers des industries qui produisent pour atteindre au maximum une hausse de température de 2 degrés. Pour faire ça, il faut qu'il ait une mesure de ce que font les différentes entreprises en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de façon à choisir celles qui font moins d'émissions, voire réduisent les émissions. Hein. Et donc, il leur faut ces mesures. Et il faut ces mesures à un niveau suffisamment synthétique pour qu'un acteur financier puisse agir, puisque lui, il n'agit pas sur une entreprise particulière, il agit sur ce qu'on appelle un portefeuille, c'est-à-dire il oriente des masses d'investissements dans des catégories d'entreprises. Et donc, il faut introduire cette notion de catégorie d'entreprise bas carbone avec des outils de mesure qui permettent à un investisseur financier de savoir vraiment pourquoi il investit à tel endroit plutôt qu'ailleurs. Voilà la question. Et les travaux commencent. Les travaux, c'est justement le G20 qui, cette année, a investi ça, ce qu'on appelle la Green Finance Study Group, c'est-à-dire comment introduire des outils de mesure et aussi obliger les entreprises à dire ce qu'elles font en termes de carbone, avec par conséquent des indicateurs qui soient lisibles, et lisibles à un niveau général. Tout ce travail est à faire et commence seulement à être fait, c'est l'initiative du G20. Et la fameuse Task Force, là, c'est essayer, si vous voulez, de mesurer les risques financiers que les investisseurs doivent connaître pour investir dans tel secteur plutôt que dans tel autre, en réduisant le risque financier. Et donc là, c'est aussi un travail important, un travail d'indicateur, un travail de ce qu'on appelle benchmark, hein, des repères, etc. Et donc, vous voyez que ce travail, c'est quoi? Ce qu'on appelle, c'est donc enrichir ce qu'on appelle les critères ESG, c'est-à-dire environnement, sociaux et de gouvernance. Il faut aussi que la gouvernance des entreprises aille dans le bon sens. Hein, et comme vous l'avez vu tout à l'heure sur la taxe carbone et le problème du double dividende, ça introduit, si vous voulez, la répartition des revenus. Donc, environnementaux directement, sociaux et de gouvernance. est ce type de mesure, notation, il faut que les entreprises puissent être notées par rapport à ces critères-là, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, où elles ne sont notées que par des agences financières, hein, les fameuses agences financières, qui se fichent totalement, hein, jusqu'à présent, hein, mais qui vont sans doute être obligées de s'y impliquer, qui se fichent totalement de ces fameux critères non financiers. Il faut que les critères non financiers des risques, et vous avez vu tout ce qu'ils étaient à travers ce que j'ai dit tout à l'heure sur le climat, eh bien, que ces critères non financiers entrent dans la finance et entrent intimement dans les comportements de tous les investisseurs financiers. C'est comme ça que l'on peut arriver à mobiliser véritablement la finance. Donc voilà ce qu'il faut faire. Et vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, donc il y a tous les risques de la transition dont j'ai parlé tout à l'heure, les risques physiques, les risques de transition, ce sont des risques. Mais il y a des opportunités de l'autre côté. Si on va dans le bas carbone, on va investir pour l'efficacité énergétique, on va investir dans des sources d'énergie renouvelables, on va changer la structure des produits et des marchés finement, de façon à ce qu'ils aient moins de gaz à effet de serre implicitement dans leur production, hein. Et c'est tout, véritablement. Et quand, lorsqu'on parle des bâtiments, du renouvellement des villes, lorsqu'on parle de des transports urbains, lorsqu'on parle d'une révolution qui, de la voiture individuelle, va au partage et aux moyens de transport public beaucoup plus importants, eh bien, c'est ça, cette transformation extrêmement profonde du mode de vie passe par des quantités d'investissements qui doivent être orientées par les acteurs financiers donnant les moyens financiers pour aller dans ce sens-là. Oui, le processus est extraordinairement complexe, mais en même temps, si vous voulez, grâce aux mesures, on peut arriver à décentraliser par conséquent l'objectif fondamental que le politique doit donner en disant voilà la valeur sociale du carbone. Ça doit s'irradier dans l'ensemble des critères financiers qui sont dérivés en quelque sorte de ce critère fondamental. Voilà l'objectif essentiel. Et à ce moment-là, ces opportunités et les risques, ben, ils apparaissent tous les deux dans le bilan et dans les comptes d'exploitation des entreprises. Il faut que les entreprises divulguent ces comptes d'exploitation réformés de façon à ce que les acteurs financiers aient les moyens de choisir, si vous voulez, des investissements allant dans le bon sens. Voilà, c'est un chantier formidable, hein, mais c'est un chantier dans lequel on commence à connaître une ligne directrice concrète. Grâce à ce problème de mise en place des nouveaux indicateurs de mesure. Et à partir de ça, ben, je vais laisser ça de côté. Ça dit que ça ne va pas. Hein. Toutes les raisons pour lesquelles aujourd'hui on n'y est pas. Et pour y aller, il faut ça. Une fois que vous avez une idée des bons critères, de la bonne décision financière par rapport au problème climatique, comment la finance doit-elle se réformer? Quels sont les vecteurs du progrès dans ce domaine? Eh bien, la puissance publique doit réintervenir à ce niveau-là. La puissance publique ne peut pas financer les investissements. C'est des investissements de milliers de milliards de dollars au niveau mondial, hein, de centaines de milliards par an au niveau européen. Donc, ce n'est pas pas le budget qui peut financer ça. Mais il doit donner, grâce à un fonds suffisamment solide, une garantie aux acteurs privés qui vont faire ces investissements par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, la possibilité des pertes très importantes du fait de la transition. Et la transition va être douloureuse pour tout acteur économique qui a un bilan chargé en industrie de standard, en quelque sorte, puisqu'elles sont polluantes. Et donc, la transition implique évidemment que la finance prenne le risque de pousser les entreprises dans ce sens-là. Et les entreprises, certaines vont faire des pertes, etc., qui vont se répercuter dans la finance. Et il faut qu'il y ait une garantie suffisante publique derrière pour que ceci ne crée pas, si vous voulez, des effets de crise financière temporaire, hein, qui arrêteront le processus, qui recréeront de la contradiction politique, etc. Il faut qu'elle soit suffisamment souple, ce processus. Et ça, la grosse difficulté. Et les fonds de garantie doivent jouer ce rôle-là. Donc, il faut des fonds de garantie publics. Et ensuite, il y a trois types d'acteurs qui peuvent jouer un rôle moteur. qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes contraintes que les banques commerciales, ce sont les banques publiques de développement, comme l'Europe en a pas mal, et comme est par exemple la Caisse des dépôts en France, hein, la KfW allemande, un organisme très important en Italie aussi, etc. L'avantage en Europe, c'est que nous avons ça. Mais on ne les a jamais mis en réseau, sous le contrôle de la Banque européenne d'investissement qui chapeauterait l'ensemble et qui créerait un système financier de type européen, mais à implication nationale et locale, grâce au rôle des banques qui connaissent le tissu industriel de chaque pays. Et donc ça, c'est très, c'est évidemment très important, ce type de banque publique, car elles ont tous les avantages possibles, c'est-à-dire elles ont l'expertise pour analyser la nature des investissements à faire. Elles ont l'avantage de ne pas subir de contraintes de liquidité puisqu'elles ont un capital public. Elles peuvent émettre par conséquent des obligations à long terme pour, si vous voulez, avoir un effet multiplicateur sur les investisseurs privés et faire de la contrepartie entre investisseurs publics et investisseurs privés, qui est tout à fait essentiel, qu'il y ait un effet multiplicateur. C'est l'épargne privée qui, pour l'essentiel, va financer. Mais dans le cas, encore une fois, d'une logique complètement renouvelée que j'essaye de vous définir. Et donc, les banques publiques de développement sont un vecteur initial de lancer le processus de transformation de la structure industrielle. Ce que ne fait pas le plan Juncker, parce qu'il n'est pas orienté de manière cohérente sur le bas carbone. Il fait c'est des investissements à la Prévert, hein. Il y a n'importe qui annonce un projet, il peut être ou pas ami, mais il n'y a aucune cohérence dans le plan Juncker. Il faut faire un investissement, c'est tout ce qu'on dit. Pas de ça du tout. Il faut que ça soit dans cette cohérence-là, vous comprenez pourquoi. Il faut des fameux investisseurs institutionnels responsables, vous en avez parlé déjà, donc je n'en dis pas beaucoup plus. Il commence à y avoir des clubs d'investisseurs qui orientés vers le long terme bas carbone, hein, donc qui cherchent à définir des portefeuilles, à les modifier en fonction, mais pour l'instant ils n'ont pas les... Et dès qu'ils auront les indicateurs en fonction des travaux dont j'ai parlé tout à l'heure, ça sera beaucoup plus clair pour eux. Donc ils auront plus de moyens d'aller vers le fameux portefeuille de degrés. Et les banques centrales peuvent jouer un rôle important. Hein. Les banques centrales, rappelez-vous ce qu'elles font aujourd'hui. Elles font ce qu'on appelle le QE. Hein. C'est-à-dire, elles ont une politique de bilan, elles achètent des titres de manière importante pour créer suffisamment de monnaie de façon à lutter contre la baisse de la croissance. Hein. Eh bien, au lieu d'acheter des titres qui sont des titres publics qui existent déjà, pourquoi n'achèterait-elle pas des titres qui résultent des crédits bas carbone? Auquel cas, d'une part, elle régulariserait le prix du marché, en quelque sorte, des actifs carbone, et d'autre part, elle continuerait leur politique de bilan, puisque les banques centrales, maintenant, ont bien compris qu'elles doivent mener une politique qui est beaucoup plus complexe que simplement dire « je dois garder un taux d'inflation donné, etc. » et « je dois être indépendant de tout le reste de l'activité publique ». Non, elles peuvent jouer un rôle important de régulation du marché, d'un marché des titres carbone. Je ne parle pas du marché du carbone au niveau des produits, d'un marché des titres carbone qui serait, si vous voulez, issu des investissements nouveaux et qui permettrait d'élargir la masse de l'épargne mondiale investie en cette transition. Voilà. Alors, voilà, je termine par un schéma qui est notre propre proposition. Dans ce cadre-là, vous voyez ce qui est important. Le gouvernement doit intervenir en définissant une valeur sociale du carbone, en ayant un fonds de garantie, pour éviter, si vous voulez, la possibilité de perte en chaîne. Vous avez, voilà ce qui est important, j'en ai pas parlé jusqu'ici parce que on n'en avait pas parlé les économistes n'en parlent pas. La certification des réductions d'émissions. Vous comprenez ce qui peut se passer. Vous risquez d'avoir une bulle carbone si jamais on lance le processus. N'importe qui, n'importe quel entrepreneur peut dire « mais moi, je vais faire des choses formidables, etc. » Et si on finance ça si vous voulez, de manière aveugle, on aura une bulle carbone qui explosera, c'est-à-dire, de la même manière qu'il y a une bulle technologique qui a explosé en l'an 2000, les gens faisant n'importe quoi, dès qu'on parlait de nouvelles technologies, hop, on y allait les yeux fermés, résultat, une bulle formidable, et ensuite un effondrement boursier. On risque tout à fait la même chose en termes d'une bulle carbone. D'où la nécessité d'une certification. Ça veut dire qu'une nouvelle industrie d'experts doit se mettre voir le jour, constitué de gens qui sont capables de mesurer effectivement sur des investissements en cours de réalisation la baisse de gaz à effet de serre qui découle de cet investissement. Dès lors que vous avez une valeur sociale du carbone multipliée par le volume certifié qui a eu une baisse de tant de tonnes de CO2, hein, ou d'équivalent CO2, vous avez une valeur sociale, vous avez une valeur, vous multipliez la valeur unitaire qui est la valeur sociale du carbone par le volume, et vous avez un actif carbone. Et donc vous créez un nouvel actif. Et ce nouvel actif peut en effet être, si vous voulez, assimilé dans les portefeuilles des acteurs financiers. Donc il faut ce certificat, et les entrepreneurs auraient un avantage dans notre modèle, c'est de la chose suivante. La valeur certifiée, l'entreprise a besoin d'un crédit. Toute entreprise a besoin d'un crédit pour faire un investissement de type risqué et nouveau. Vous voyez que l'entreprise rembourse son crédit comment? Le problème, c'est si elle doit attendre le cash flow qui résulte de l'avantage, étant donné que c'est de l'investissement, dont les effets sont longs. Ça pose un certain problème et on en aura très peu. Si au contraire on dit la chose suivante, l'entreprise rembourse son crédit avec la certification. C'est-à-dire que le certificat qui lui est donné par l'expert lui permet de rembourser son crédit à la banque. Et c'est la banque qui est chargée du certificat et de le faire valider. Et là, vous avez plusieurs possibilités. La banque peut s'adresser, c'est une possibilité qui découle de décisions institutionnelles de transformation de la finance. Le premier problème, c'est que la banque peut, si vous voulez, valider ce crédit certifié à la banque centrale pour obtenir du refinancement, donc ça serait un collatéral du refinancement, hein, pour obtenir le refinancement de la liquidité centrale dont elles ont toujours besoin, les banques mettent à disposition de la banque centrale des actifs qu'elles ont, qui sont sûrs. Eh bien, elles pourraient mettre à disposition cet actif certifié. Et par conséquent, vous voyez, la banque centrale rentrerait, si vous voulez, de manière intime, dans ce cadre-là, dans le processus de modification, de transition productive. Il irait à la banque centrale, cet actif, garanti derrière par l'État. Bon. L'autre possibilité, c'est ce qu'on appelle la titrisation. C'est-à-dire que si vous avez des crédits pour des investissements de petite taille, vous allez en avoir beaucoup si le processus se développe. Mais chacun est de petite taille, donc très difficile à mobiliser individuellement. Il y a une technique des titrisations qui est une mise en poule, et cette mise en poule crée des titres financiers en contrepartie de ce pool, et ça c'est l'alchimie financière, hein. Mais fait sous la garantie non plus de banques d'affaires qui cherchent si vous voulez, un peu comme la Deutsche Bank, si vous voulez, à gruger les gens, hein, c'est ce qui s'est passé. Si la Deutsche Bank a beaucoup à payer, c'est parce qu'elle a livré à la population en des actifs pourris. Là, ça ne se fait pas, enfin, c'est les banques de développement qui feraient la titrisation, bien sûr. Et à ce moment-là, vous avez une possibilité de voir les investisseurs institutionnels acheter tous les titres, et donc le marché des titres carbone apparaîtrait sur les crédits certifiés, à partir des crédits certifiés. Et le pool de crédits certifiés a une contrepartie, il y a une émission de titres, ces titres sont achetés par les investisseurs. À ce moment-là, vous avez validé le processus d'un financement du carbone. Et voilà ce qui est possible pour financer l'épargne de long terme. La banque centrale, à ce moment-là, jouerait un rôle secondaire, non pas d'avoir directement les actifs carbone à son bilan, mais de réguler ce marché. Elle déciderait d'acheter ou pas des obligations carbone ainsi constituées au fur et à mesure de sa politique monétaire standard. Voilà ce que je voulais vous dire.
le début était tragique, le milieu était remarquablement intéressant, la fin était un petit peu plus complexe, mais tes schémas explicitent assez bien le tout. Donc je vais laisser ceux qui veulent partir, partir. Et je vais passer la parole à la salle. Je dis salut aux gens de Mermoz à Montpellier, que je n'ai pas salué tout à l'heure. Je prendrai deux questions de la salle, s'il y en a, et puis après, deux questions de Mermoz, et on alternera comme ça pendant un quart d'heure. Ça nous va, madame la proviseure ? Bon. Voilà, alors la parole est dans la salle pour des questions. Je précise bien des questions et pas des pétitions de principe. Voilà. Alors, Antoine Cavel.
Votre dernière partie, qui est encore affichée au tableau, me pose une question très clairement. Comment peut-on éviter que des intermédiaires privés dans cette nébuleuse ne se remplissent pas les poches?
Deuxième question, on va en prendre deux, non? Autre question, oui monsieur? Mermoz, préparez-vous, je vais vous donner la parole pour deux questions.
Bonsoir. Tout d'abord, merci d'avoir évité les tartes à la crème du photovoltaïque et de l'éolien financé par des subventions, dont des taxes. Dans le domaine européen, les objectifs de l'Union européenne sont triples et, à mon avis, il devrait y en avoir un seul, c'est la diminution des émissions de carbone. Les autres objectifs affichés par l'Union européenne, c'est-à-dire pourcentage d'énergie renouvelable et diminution de l'intensité énergétique de la production, ne sont que des moyens. Qu'en pensez-vous? Deuxièmement, que pensez-vous d'actions politiques de court terme, telles que la suppression de l'écotaxe et le gel de la puissance nucléaire française? Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de tout votre exposé? Et enfin, un petit détail, je crois qu'il faudrait clarifier, quand on parle de prix de carbone, si c'est le prix de la molécule de carbone, C, ou si c'est le prix de la molécule de CO2. Comme il y a un rapport de masse de 3,6 entre les deux, c'est pas du tout la même chose. Voilà, mais ça n'enlève absolument rien au caractère passionnant de votre exposé. Vas-y.
Alors, ce qui maintenant permet d'éviter ce que vous dites, hein, c'est la simplification. Elle joue un rôle absolument crucial, puisque la simplification définit le volume qui a effectivement été abattu en termes de CO2. Donc c'est bien le CO2 qui est considéré comme fondamental dans ce cas-là. Alors le problème, donc ça marche si vous voulez, s'il y a un problème, c'est ça. Certification peut-elle être directe par des experts? Oui, pour des industries suffisamment importantes et des entreprises suffisamment importantes. Vous voyez que des ménages qui vont faire leur... qui voudraient améliorer leur logement. Vous pouvez pas avoir une certification de millions de crédit de ce type. Alors, là, on pense à des choses indirectes, c'est-à-dire, d'une part, il faut un intermédiaire, si vous voulez. Le ménage ne va pas financer ça directement. Alors, ce qui va être financé directement, il faut un intermédiaire. Donc là, il faudrait que dans les collectivités locales, il y ait une organisation financière, en quelque sorte, hein, bon, tirée, disons, d'organismes publics locaux, hein, par l'intermédiaire de la nouvelle banque française, si vous voulez, pour favoriser l'investissement, etc. Donc, un organisme qui finance pour le ménage. L'avantage du... où est la certification là, dans ce cas-là, comment on la voit? Elle se trouve à travers les factures de chauffage et les factures d'électricité. Hein, c'est comme ça qu'on pense le faire. La baisse des factures de chauffage et d'électricité exprime le résultat positif d'un investissement bas carbone. Et à ce moment-là, il y a une partie de cet avantage qui est progressif, si vous voulez, prélevé par l'organisme financeur, de façon à ce que finalement, au bout du compte, il soit remboursé, et que ce soit le ménage qui l'ait financé, au bout du compte, sans le savoir. puisque c'est le ménage qui va tirer l'avantage final du fait d'avoir un logement qui est, si vous voulez, mieux équipé. Voilà un peu une méthode, hein, une méthode pour aller aux investissements relativement faibles et limités. Mais les investissements de taille suffisante, c'est vraiment une expertise directe par des experts qui permettent de définir. Voilà, c'est vraiment ça, cette quantité-là qui a été abattue, et par conséquent, le rendement qui est défini par cette quantité, et donc vous bloquez, si vous voulez, la possibilité, ce que j'ai dit tout à l'heure. Il ne faut surtout pas que n'importe qui dise « moi j'abats du CO2 » puisse être reconnu directement en, comme étant un très bon investisseur en bas carbone. Là, le problème, de toute manière, qu'il soit direct ou indirect, il faut un contrôle de certification. Alors, sur le deuxième élément, oui, moi je suis assez d'accord avec vous, hein, je veux dire, je suis même entièrement d'accord avec vous, bien sûr. Vous avez des moyens et vous avez des objectifs. L'objectif fondamental, c'est la transition climatique. En effet, la transition climatique, alors, c'est CO2 équivalent, hein, c'est-à-dire, c'est pas seulement le CO2, et c'est ça qui rend très difficile un très bon indice. C'est-à-dire qu'il faut, aujourd'hui, l'équivalence, elle est assez... comment dire, assez mal définie. Elle prend pas en compte l'ensemble des choses qui sont la durée dans l'atmosphère, mais l'intensité de pollution temporaire, je vais vous parler du méthane. Vous avez aussi des gens qui disent, mais attention, la pollution c'est aussi important que la hausse de la température, donc ça doit rentrer dans une notion de valeur sociale du carbone plus élaborée, etc. Donc ça c'est en effet la question, mais en toute circonstance, l'objectif doit être défini en termes de réduction de l'émission vue d'une manière plus ou moins large, en fonction de l'ensemble des gaz ou moins de gaz, si on met l'accent que sur le CO2, mais c'est en effet la quantité d'émissions, je ne sais pas qui a posé cette question, qui est essentielle. Et le reste, c'est bien des moyens, tout à fait. Alors justement, en termes de politique énergétique, vous voyez à quel point on est en Europe, il est clair que pour pouvoir faire ça, il faut une seule politique énergétique européenne. Ben, si on considère que l'Europe est le territoire à partir duquel on peut définir une politique climatique, et ça a un sens, hein, et non pas le niveau national, ce que tout le monde pense, eh bien, il faut bien entendu qu'il y ait une seule politique énergétique. Et d'autre part, il faut que les investissements aillent là où ça permet de développer les pays qui sont en sous-développement, tout en étant, si vous voulez, favorable au bas carbone. Je prends un exemple, le développement d'énergie solaire, qui aujourd'hui est essentiellement fait autour de la Baltique. A priori, il serait mieux fait en Grèce, en Espagne, au Portugal. Donc, toute l'Europe devrait investir là où le solaire est moins coûteux, et où l'intensité, si vous voulez, d'énergie dégagée est plus importante. Et pour le faire, il faut bien sûr que l'électricité puisse être transportée dans toute l'Europe. Donc il faut développer les réseaux de distribution intelligente d'électricité qui supposent des investissements considérables, des investissements sophistiqués au niveau de l'Europe. Dans le cadre d'une politique énergétique qui dit que c'est le renouvelable qui est l'élément essentiel. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, le nucléaire apparaît comme une énergie temporaire d'appoint et non pas comme l'énergie prépondérante. Voilà un peu, si vous voulez, la manière de penser la question. Et le problème, c'est d'arriver à ce que les gouvernements soient d'accord là-dessus. Une instance supérieure finisse par les mettre d'accord. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Je crois que j'ai fait ce
point. Bon, on fait un essai avec Mermoz. Vous m'entendez? Oui.
On vous entend très bien, bon, merci pour la prestation. On n'a pas de questions ici à Mermoz.
Bon, ben on va attendre 2 minutes.